La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Le titre du message de ce matin est « Le trône de Dieu dans le sanctuaire ». Et avant de commencer cette présentation, j'aimerais inviter à toutes celles et ceux qui considéreront cet enregistrement à considérer également la présentation que nous avons publiée en 2016, laquelle avait pour titre « Saint, Saint, Saint ». Qui adore-t-on au ciel? Qui devons-nous adorer sur terre? C'est une présentation qui dure 2h30, je crois, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, la présentation que nous allons voir, la présentation de ce matin tout du moins, eh bien, sera annexe, ou tout du moins sera jumelle. Elle sera, eh bien, complémentaire à ce que nous allons voir ce matin. Okay. Quelle est la chose la plus importante d'après la Bible? Quelle est la chose la plus importante d'après Jésus? Je vous invite à vous rendre avec moi en Matthieu, chapitre 6, et à considérer à cet endroit le verset 33. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Je vous invite à avoir vos Bibles en main, à ne pas lâcher vos Bibles de la main, parce que nous allons considérer beaucoup de textes. Et nous allons faire ça en très peu de temps. D'accord? Et alors, allons-y. Matthieu, chapitre 6, verset 33. « Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Mes amis, ici, vous avez l'unique endroit dans la Bible où vous avez le mot « chercher » qui précède premièrement. C'est le seul endroit dans la Bible où vous avez cette expression-là, « chercher premièrement ». Autrement dit, lorsque nous lisons ce verset, nous avons là un message de la plus haute importance, mes amis. Nous avons là, je répète, un message de la plus haute importance. Et d'après Jésus, ce qui est de la plus haute importance, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Alors, rapidement, je fais une parenthèse. Ce verset-là est à mettre en parallèle avec Ésaïe 8, verset 20, à la loi et au témoignage. Apocalypse 12, verset 17, les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et le témoignage de Jésus, excusez-moi. Et Apocalypse 14, verset 12, les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ici, Jésus était en train de communiquer à ses auditeurs la substance même du message du troisième ange, mes amis. Fin de la parenthèse. Mais revenons à ce que je disais il y a quelques secondes de cela. Jésus nous parle ici de la chose la plus importante. Et d'après, selon lui, il s'agit du royaume de Dieu et de sa justice. Mes amis, vous n'avez pas de royaume sans roi, n'est-ce pas? Et un roi, ayant un royaume, il a des citoyens de ce royaume. Okay? Mais également, un royaume ayant un roi possède aussi un trône. D'après vous, où est-ce que nous pouvons Quel est le meilleur endroit dans la Bible où nous pouvons chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice? Quel est cet endroit? Je vous invite à vous rendre avec moi en Psaume 77, verset 13. Psaume 77, verset 13. Psaume 77, verset 13, où il est dit: et le verset 14, pour ceux qui ont une Bible Sterval comme moi: ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel autre Dieu est grand comme Dieu? Ici, vous avez une version qui ne correspond pas. Ce que je viens de lire dans la Osterwald ne correspond pas au texte original. Le texte original hébreu, mes amis, dit Elohim beha kodesh derech ata. Autrement dit, Dieu, dans le sanctuaire, ta voix. OK? Et la version Martin rend cela correctement, traduit cette pensée correctement. Ô Dieu, ta voix est dans ton sanctuaire. Qui est Dieu fort et grand comme toi? Je vous invite à prêter attention à cela. Ô Dieu, ta voix est dans ton sanctuaire. Donc, autrement dit, c'est dans le sanctuaire, à travers le sanctuaire de Dieu, que nous devons considérer les voix de Dieu, en fait. Donc, nous devons écouter Jésus, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et commencer par le sanctuaire. D'accord? Je vous invite à vous rendre avec moi maintenant en Exode, chapitre 25, verset 40. Où nous rendons-nous? C'est ça, Exode, chapitre 25, verset 40. Exode, chapitre 25, verset 40, où nous lisons: regarde donc et fais-les d'après leur modèle qui t'a été montré sur la montagne. Ici, le Seigneur rappelle, ou tout du moins, il déclare à Moïse: eh bien, fais cela, c'est-à-dire le sanctuaire, d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc, autrement dit, il y a un type qui doit correspondre à un antitype. OK? Et j'aimerais que nous considérions le type de manière à pouvoir comprendre l'antitype. J'aimerais que nous considérions le symbole de manière à pouvoir comprendre la réalité. Alors, pour cela, considérons Exode 25, versets 23 à 30, où il nous est parlé de la table des pains de proposition dans le sanctuaire. Où allons-nous? Exode 25, versets 23 à 30. Où il est dit: tu feras aussi une table de bois de sittim. Sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur et tu lui feras un couronnement d'or tout autour. Tu lui feras aussi à l'entour un rebord de 4 doigts et tu feras à ce rebord un couronnement d'or tout autour. Tu lui feras aussi 4 anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux 4 coins qui seront à ses 4 pieds. Les anneaux seront près du rebord afin d'y mettre les barres pour porter la table. Tu feras les barres de bois de sittim et tu les couvriras d'or et on portera la table avec elles. Tu feras aussi ses plats, ses tasses, ses vases et ses coupes avec lesquelles on fera les libations. Tu les feras d'or pur et tu mettras sur la table du pain de proposition qui sera continuellement devant moi. Et je vous invite à comparer cela, et je vous le donne simplement en référence, avec Exode 37, verset 10 à 16. Exode 37, verset 10 à 16, où il nous est également communiqué une description de la table des pains. J'aimerais vous poser une question à présent. Après avoir lu cette description, combien de couronnements la table des pains de proposition avait-elle? Reconsidérons le verset 24. Tu la couvriras d'or pur et tu lui feras un couronnement d'or tout autour. Déjà, il y en a un. Considérons le verset 25 pour voir s'il n'y en a qu'un. Tu lui feras aussi à l'entour un rebord. Donc, remarquez le terme « aussi ». Cela vient s'additionner à ce qui est manqué au verset 24. Tu lui feras aussi à l'entour un rebord de quatre doigts et tu lui feras, et tu, tout du moins, et tu feras à ce rebord un couronnement d'or tout autour. Deux couronnements, mes amis. Deux couronnements. La table des pains de proposition avait deux couronnements, mes amis. Je vous invite à noter ça. Je vous invite à noter ça très soigneusement. Maintenant, nous allons considérer un autre symbole, lequel n'était pas très loin de la table des pains de proposition. Je vous invite à vous rendre avec moi, ou du moins à poursuivre la lecture d'Exode 25 à partir du verset 31 jusqu'au verset 39. Et là, il nous est communiqué la description du chandelier. Exode 25, du verset 31 jusqu'au verset 39. Tu feras aussi un chandelier d'or pur. Le chandelier, son pied et sa tige seront faits au marteau. Ses calices, ses pommes et ses fleurs en seront tirés. Il sortira six branches de ses côtés. Trois branches du chandelier d'un côté et trois branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura trois calices en forme d'amande et une branche avec pommes et fleurs. Et trois calices en forme d'amande et l'autre branche avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les six branches sortant du chandelier. Il y aura au chandelier même quatre calices en forme d'amande et ses pommes et ses fleurs. Une pomme sous les deux branches qui en sortent, une pomme sous les deux autres branches et encore une pomme sous les deux autres branches qui en sortent pour les six branches sortant du chandelier. Ces pommes et ces branches en seront tirées. Il sera tout entier d'une seule pièce au marteau en or pur. Tu feras aussi sept lampes et l'on allumera ces lampes de manière qu'elles éclairent en avant du chandelier. Et ces mouchettes et ces porte-mouchettes seront d'or pur. On fera ce chandelier avec tous ses ustensiles d'un talent d'or. Et c'est là que suit. C'est là qu'intervient le verset qu'on a lu tout à l'heure. Regarde donc et fais-les d'après leur modèle qui t'a été montré sous la montagne. Mes amis, veuillez noter que ici, il y a deux éléments dont il nous est parlé très précisément. Il y a le chandelier et les lampes qui étaient au nombre de sept. Les lampes n'étaient pas le chandelier. Les lampes étaient un élément complémentaire au chandelier. OK? Et Nombre 8, versets 1 et 2. Je vous invite à le noter en référence. Nombre 8, versets 1 et 2 nous dit également le fait que les lampes éclairaient devant le chandelier. Donc, prêtez bien attention au vocabulaire, aux termes employés. Ce sont les lampes qui éclairent devant le chandelier, mes amis. D'accord? Après avoir considéré ces deux, je dirais, mobiliers, ces deux meubles du sanctuaire terrestre, j'aimerais vous amener à considérer maintenant, eh bien, leur position dans le sanctuaire terrestre. Considérons le chapitre suivant, Exode 26, et lisons les versets 30 et 35. Exode, chapitre 26, versets 30 et 35. « Tu dresseras donc la demeure selon la forme qui t'en a été montrée sur la montagne. » Et le verset 35 dit quoi? « Et tu mettras la table en dehors du voile et le chandelier vis-à-vis de la table du côté de la demeure qui sera vers le midi. Et tu placeras la table du côté du nord. » Notez bien cela, mes amis. Notez que la table des pains de proposition se trouvait du côté septentrional, ok, au nord. Et que le chandelier, quant à lui, se trouvait du côté méridional, du midi, c'est-à-dire au sud. D'accord? Par conséquent, le sanctuaire était orienté de la manière suivante. Et lorsque les personnes entraient dans le sanctuaire, ils entraient le dos face à l'est, d'accord? Et ils regardaient en direction de l'ouest, avec le chandelier sur leur droite, au nord, et le chandelier sur leur gauche, au sud, et la table des pains de proposition sur leur droite, au nord. Cela est une chose importante que je vous demande de noter, de considérer très attentivement. Considérons à présent le sanctuaire céleste, l'antitype. Je vous invite à vous rendre avec moi en Apocalypse, chapitre 4, versets 2 à 5. Où allons-nous? En Apocalypse, chapitre 4, versets 2 à 5. Apocalypse, chapitre 4, versets 2 à 5. Et là, nous lisons. Et aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, un trône était dressé dans le ciel, et quelqu'un était assis sur ce trône. Et celui qui était assis paraissait semblable à une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était entouré d'un arc-en-ciel qui paraissait comme une émeraude. Autour du trône, il y avait 24 autres trônes, et je vis sur ces trônes 24 anciens assis, vêtus de blanc et ayant sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône sortaient des éclairs, des tonnerres et des voix. Et devant le trône brûlaient sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Mes amis, lorsque nous lisons cela, nous voyons de manière claire que le livre de la révélation de Jésus-Christ, qu'est l'Apocalypse, eh bien, cela nous révèle de manière claire que les sept lampes, eh bien, étaient le type des sept esprits de Dieu, de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et par conséquent, étant donné que ces sept lampes sont devant le trône, dans le sanctuaire céleste, il s'ensuit que le trône dans le sanctuaire céleste est l'antitype de la table des pains de proposition qui se trouvait devant vis-à-vis du chandelier aidé qui portait les sept lampes. Je vous invite à comparer, à garder ce que je viens de dire à l'esprit, et nous allons prendre des textes complémentaires. Rendons-nous en Apocalypse, chapitre 1, versets 4 et 5. Apocalypse, chapitre 1, versets 4 et 5, où il est dit « Jean, aux sept églises qui sont en Asie, la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est et qui était et qui sera, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône. » Donc, on ne peut pas s'y méprendre. Les sept esprits qui sont l'antitype des sept lampes dans le sanctuaire terrestre sont bel et bien devant le trône. Donc, par voie de conséquence, le trône est l'antitype de la table des pains de proposition. Et en Apocalypse, chapitre 3, verset 1, concernant le chiffre 7 relatif aux esprits, il nous est dit, Apocalypse, chapitre 3, verset 1, écrit aussi à l'ange de l'église de Sardes, « Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. » Et on sait qui est-ce qui parle. Regardez la fin du verset. « Je connais tes œuvres et tu as la réputation d'être vivante, mais tu es morte. » Il s'agit bel et bien de Jésus, du Fils de Dieu. C'est lui qui a les sept esprits. D'accord? Et de manière à bien comprendre cela, de manière à parachever notre compréhension des sept esprits, rendons-nous en Apocalypse 5, verset 6. Apocalypse, chapitre 5, verset 6. Où il nous est dit, « Et je regardais, et voici, au milieu du trône et des quatre animaux, et au milieu des anciens, un agneau était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Ici, les sept yeux, il nous est dit que cela représente les sept esprits de Dieu qui sont envoyés par toute la terre. Mes amis, je ne pense pas que Dieu a littéralement sept esprits. Autrement, il y aurait au minimum sept dieux dans le ciel. Non. Par contre, lorsque l'on considère que le chiffre 7 représente la plénitude, on comprend qu'il s'agit bel et bien de la plénitude de l'Esprit de Dieu qui habite en Christ, qui est l'agneau de Dieu. Et que c'est par son Esprit, comme nous dit le psalmiste dans le psaume 139, « Où fuirai-je loin de ton Esprit ?» C'est par son Esprit que Dieu est omniscient et omniprésent. Et voit toutes choses. C'est pour ça qu'il est dit qu'il les représente comme les yeux de Dieu. Mais aussi, donc les yeux de Dieu, oui, envoyés par toute la terre. Donc, Dieu, il n'y a rien qui échappe à Dieu, mes amis. Et c'est parce que, par son esprit, il est omniprésent et omniscient. Ayant dit cela, je peux à présent résumer ce que nous avons vu jusqu'ici. Nous avons vu que la table des pains de proposition dans le sanctuaire terrestre est le symbole, est le type du trône de Dieu dans le sanctuaire céleste. Et les sept lampes qui étaient dans le sanctuaire terrestre sur le chandelier sont le type de l'Esprit de Dieu, des sept esprits de Dieu qui sont devant le trône et envoyés par toute la terre. Mes amis, rappelez-vous, ayant dit cela, également ce que nous avons vu. Nous avons vu, et je vous demande de garder ce qui suit, ce que je vais dire, la prochaine chose que je vais dire, je vous demande de les garder à l'esprit. Nous avons vu que le trône était du côté septentrional, au nord. Okay? Gardez ça à l'esprit, car nous y reviendrons à la fin de cette étude. Mais maintenant, je vous demande de garder à l'esprit, pour maintenant et jusqu'à la fin de cette étude, le fait que la table des pains de proposition avait deux couronnements. C'est ce qu'on a vu, mes amis. Elle avait deux couronnements. Retournons en Apocalypse, chapitre 4, verset 9, et lisons du verset 9 jusqu'au verset 11. Apocalypse, chapitre 4, verset 9 à 11, où il nous est dit « Et quand les animaux rendaient gloire et honneur et grâce à celui qui était assis sous le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternaient devant celui qui était assis sous le trône et ils adoraient celui qui vit au siècle des siècles et jetaient leur couronne devant le trône en disant « Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et ont été créées. » De manière à savoir de qui l'on parle ici, de manière à bien savoir à qui les anges du verset 8 disent « Saint, Saint, Saint » comme on le voit à la fin du verset 8. « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui sera. » De manière à bien savoir à qui cela est adressé et qui est sous le trône à cet instant bien précis. Je vous invite à vous rendre avec moi en Apocalypse 7, versets 10 et 15. Apocalypse, chapitre 7, versets 10 et 15. De manière à clarifier ça. Apocalypse 7, versets 10 et 15, où il est dit « Et il criait à grande voix, disant, le salut vient de notre Dieu qui est assis sur le trône et de l'agneau. » Ok? Et au verset 15, « C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et ils le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône étendra son pavillon sur eux. » De manière claire, avec les textes que nous avons considérés jusqu'ici, nous voyons qu'il s'agit de Dieu. C'est Dieu qui est assis sous le trône. D'accord? Mais Dieu, le Père, n'est pas seul sous le trône, mes amis. Je vous invite à vous rendre avec moi en Hébreux, chapitre 8, verset 1. Où allons-nous? Hébreux, chapitre 8, verset 1, où nous lisons, en Hébreux 8, verset 1, « Or, le point capital de ce que nous avons dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. » Christ est assis à la droite trône de Dieu. Et l'apôtre Paul a répété cela aussi en Hébreux 12, verset 2. Hébreux, chapitre 12, verset 2. En disant, en Hébreux 12, verset 2, « Regardant à Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Jusqu'ici, nous voyons que sur le trône, Dieu ne siège pas tout seul, mes amis. D'accord? Et l'Apocalypse, le livre de la révélation de Jésus-Christ, enlève vraiment le voile pour nous montrer qu'il en est ainsi. À savoir que Dieu ne siège pas tout seul sur le trône. Je vous invite maintenant à vous rendre avec moi en Apocalypse, chapitre 22, et à y lire les trois premiers versets. Apocalypse, chapitre 22, et lisons là les trois premiers versets. Apocalypse 22, Versets 1 à 3. Après cela, il me fit voir un fleuve d'eau vive, clair comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve était un arbre de vie portant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des gentils. Il n'y aura plus aucun anathème. Et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle et ses serviteurs le serviront. Il est clair à partir de ce que nous venons de lire à l'instant que le trône dans le sanctuaire céleste, eh bien, est occupé par deux êtres, Dieu et l'agneau. Ces deux êtres sont les personnes qui siègent sur ce trône, mes amis. Et de manière à davantage mettre cela en lumière, je vous invite à vous rendre avec moi maintenant en Apocalypse, chapitre 3, versets 21 et 22. Où allons-nous? Apocalypse, chapitre 3, versets 21 et 22. Apocalypse 3, 21 et 22. Où il nous est dit, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. » Est-ce qu'il s'arrête là, Jésus? Non, il ne s'arrête pas là. Il continue. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et Jésus, ayant les sept esprits de Dieu en lui, va conclure en disant que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est Jésus qui parle et il demande que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Remarquez comment Jésus procède au verset 21. Il dit que c'est son trône. Et après, il dit que c'est le trône de son Père. Le trône du Père et du Fils, mes amis. Le trône qu'il y a dans le sanctuaire céleste, qui était typifié par la table des pains de proposition dans le sanctuaire terrestre, est le trône de la divinité, mes amis, du Père et du Fils. Et c'est pour cela qu'il n'y avait que deux couronnements à la table des pains de proposition. Mais également qu'il n'y avait que deux piles de pain. Il y en avait 12. Deux piles de 6 pains, mes amis. Voilà pourquoi le chiffre 2 est présent d'une manière toute particulière sur la table des pains de proposition. Et l'une des questions, l'une des questions que l'on pourrait se poser serait, mais il s'agit du trône de Dieu, mais OK, mais pourquoi Christ peut-il s'y asseoir? Pourquoi il n'y a pas que Dieu, Dieu le Père qui a le droit de s'y asseoir? Pourquoi Christ a également le droit? Voilà, ce serait ça la question. Pourquoi Christ, lui aussi, peut-il également s'asseoir sur ce trône? La réponse nous est communiquée par l'apôtre Paul en Hébreux, chapitre 1, versets 8 et 9. Où allons-nous? Hébreux, chapitre 1, versets 8 et 9, où nous lisons en Hébreux, chapitre 1, versets 8 et 9, « Mais quant au Fils, ô Dieu, ton trône demeure au siècle des siècles, et le sceptre de ton règne, on peut aussi dire royaume, est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. Mes amis, lorsque Dieu le Père s'adresse à Jésus, il lui dit, ô Dieu, ton Dieu. Autrement dit, lorsqu'il parle à son fils, le Père l'appelle Dieu. Et étant donné que dans le sanctuaire céleste, il s'agit du trône de Dieu, Christ a légitimement le droit de s'y asseoir parce qu'il est Dieu. Et cela est son trône, tout comme le trône de Dieu. Et le royaume de ce qui est en rapport avec ce trône est aussi bien le royaume de Dieu que de Christ, par voie de conséquence. Jusqu'ici, nous avons pris la Bible de manière à pouvoir établir ce que nous venons de dire, à savoir que le trône de Dieu dans le sanctuaire appartient à deux êtres personnels, que sont le Père et le Fils. Il n'y a que deux êtres personnels, que sont le Père et le Fils, qui siègent sur le trône dans le ciel. Et maintenant, nous allons considérer ce qu'a déclaré l'esprit de prophétie à cet égard. Si vous acceptez l'esprit de prophétie qui a été manifesté dans le ministère de l'NG Watt, comme moi je l'accepte, et que vous n'êtes pas d'accord avec ce que nous venons de dire, avec ce que nous avons dit jusqu'à présent, eh bien, je pense que vous allez devoir sérieusement réfléchir. Je pense qu'après ce que nous allons lire là, vous allez devoir sérieusement réfléchir. Parce que ce que nous nous apprêtons à lire, mes amis, ne fait que confirmer tout ce que nous avons vu dans la Bible. Dans Premiers Écrits, dans la page 54 à 55, il nous est dit, « Je vis un trône, et sur ce trône étaient assis le Père et le Fils. J'admirais le visage de Jésus et sa personne adorable, mais je ne pouvais voir le Père, car une nuée glorieuse le couvrait. Je demandais à Jésus si le Père avait la même forme que lui. Il me répondit par l'affirmative, mais je ne pouvais pas le voir, car, ajouta-t-il, si tu voyais une fois la gloire de sa personne, tu cesserais d'exister. Devant le trône, je vis le peuple adventiste, l'Église et le monde. Je vis ces deux groupes. L'un était incliné devant le trône, profondément intéressé. L'autre semblait indifférent. Celui qui s'inclinait devant le trône priait en regardant Jésus qui, lui, regardait son Père et semblait plaider avec lui. Une lumière jaillissait du Père vers son Fils et du Fils au groupe en prière. Puis, je vis une lumière resplendissante qui venait du Père vers son Fils et du Fils flottait sur ceux qui étaient devant le trône. Mais ils étaient peu nombreux, ceux qui la recevaient. Plusieurs la fuyaient, d'autres y étaient indifférents, et elle s'écarta d'eux. Quelques-uns l'appréciaient et allaient s'incliner avec le petit groupe qui était en prière. Tous, dans ce groupe, recevaient la lumière et en avaient de la joie. Leur visage en reflétait la gloire. Je vis le Père se lever de son trône voire page 91 et 92, et se rendre dans un chariot de feu au lieu très saint, au-delà du voile, et s'y asseoir. Alors Jésus se leva de son trône, et la plupart de ceux qui étaient inclinés se levèrent avec lui. Je ne vis aucun rayon de lumière passer de Jésus à la multitude insouciante après qu'il se fut levé. Et ces gens étaient complètement dans les ténèbres. Ceux qui se levèrent en même temps que Jésus ne cessèrent d'avoir les yeux fixés sur lui lorsqu'il quitta son trône. Et il les conduisit un moment. Ensuite, il leva la main droite et il dit de sa douce voix, « Attendez ici, je vais au Père pour recevoir le royaume. Gardez vos vêtements sans tache. Dans peu de temps, je reviendrai des noces et je vous prendrai avec moi. » Puis, un chariot aux roues de flammes de feu, entouré par les anges, avança près de Jésus, qui y monta et fut conduit au lieu très saint où le Père était assis. Là, je contemplais Jésus, souverain sacrificateur, se tenant devant le Père. Autour de la bordure de ses vêtements, il y avait des grenades entremêlées de clochettes d'or. Voir Exode 28, versets 33 et 34. Ceux qui se levèrent avec Jésus dirigeaient leur foi vers lui dans le lieu très saint, et priait, « Père, donne-nous ton esprit. » Jésus alors soufflait sur eux le Saint-Esprit. Dans ce souffle, il y avait de la lumière, de la puissance, beaucoup d'amour, de joie et de paix. Je me retournais pour voir le groupe qui était resté incliné devant le trône. Ceux-là ne savaient pas que Jésus l'avait quitté. Satan apparut près du trône, essayant de faire l'œuvre de Dieu. Je les vis qui regardaient vers le trône et priaient, « Père, donne-nous ton esprit. » Satan soufflait alors sur eux une influence maléfique où il y avait de la lumière et beaucoup de puissance, mais pas d'amour, de joie et de paix. Le but de Satan consistait à les séduire et avec eux, les enfants de Dieu. Dans cette déclaration que nous venons de lire dans Premiers Écrits, il est clair pour la messagère du Seigneur que lorsque il a fallu passer du lieu saint au lieu très saint, le Père et son Fils étaient assis sur un trône qui leur appartenait à tous les deux. OK? Et j'aimerais maintenant vous montrer une déclaration, toujours de la messagère du Seigneur, qui nous montre que cela était le cas avant même que le péché ne rentre dans notre monde. Avant même que le plan du sanctuaire terrestre a été communiqué à Moïse. Considérons cela dans Patriarchs and Prophets, à la page 36, paragraphe 2, que je vous demande de comparer avec Patriarches et Prophètes, page 12, paragraphe 3. La raison pour laquelle je vous demande de comparer cela, c'est parce que vous allez vous rendre compte que les traducteurs francophones de ce livre n'ont absolument pas respecté la pensée de l'auteur de ce livre. Lisons. Le roi de l'univers convoqua les armées célestes devant lui, afin qu'en leur présence, il puisse présenter la vraie position de son fils et montrer la relation qu'il soutenait envers toutes les créatures. Le Fils de Dieu partageait le trône du Père et la gloire de celui qui est éternel, qui existe par lui-même, entourait les deux. Voyez-vous? Le Fils partageait le trône du Père. Et la gloire du Père entourait les deux, mes amis. Je pourrais mentionner beaucoup de choses ici, mais lorsque vous lisez ce passage dans son contexte, nous n'aurons pas le temps de le faire en ce matin. Mais en lisant cela dans son contexte, vous voyez que cela est placé dans une explication de l'origine du mal, mes amis. Et la période de temps où elle décrit cela se passe avant, bien avant la création de notre monde, mes amis. OK? Donc, bien avant la création de notre monde, Christ était assis sur le trône de la divinité, le trône de Dieu. Et durant la période de l'Ancien Testament, on comprend que cela était également le cas. Après la croix, on comprend que Christ est également assis sur le trône. Mais alors, lorsque l'on arrive dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, comment cela se passe alors? Est-ce que cela change? On peut supposer, oui, que on sait, de par Apocalypse 22, que lorsque la terre sera renouvelée, eh bien, ce sera le trône de Dieu et de l'agneau. Ça, on le sait, puisqu'on l'a déjà lu. Donc, on sait que avant l'entrée du péché, lorsque le péché est rentré, avant la croix, juste après la croix, de la croix à 1844, et lorsque le monde, lorsque notre terre, lorsque Jésus reviendra, eh bien, on sait que durant toutes ces périodes-là, on sait que Christ sera assis sur le trône avec Dieu. Mais qu'en est-il lorsqu'il est dans le lieu très saint du sanctuaire céleste? Est-ce que la Bible nous parle d'un trône? Est-ce qu'elle nous parle d'un trône sur lequel deux seraient assis? Telle est la question. Et cela est une bonne question que nous devons nous poser. Je vous invite à vous rendre avec moi en Zacharie, chapitre 6, verset 13. Où allons-nous? Zacharie. Le livre du prophète Zacharie, chapitre 6, verset 13. Zacharie, c'est juste avant Malachie, qui lui-même est juste avant Matthieu. Zacharie, chapitre 6, verset 13. Et le verset que nous allons lire, eh bien, a toute sa place dans une application faite à la période du jour des expiations, où il nous est dit, celui-là, en parlant du germe, du verset 12, le souverain sacrificateur, celui-là rebâtira le temple de l'Éternel, celui-là obtiendra la majesté, il siégera, il règnera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône et il se fera entre les deux, un dessein de paix. Mes amis, vous pouvez le prendre comme vous voulez, mais le dessein de paix, il s'agit bel et bien du plan du salut, de l'Évangile, et qui a été initié bien avant la fondation de ce monde, et qui a, l'accès à la grâce de Dieu, eh bien, va jusqu'à ce que le temps de probation se termine. Donc, durant toute cette période, mes amis, la Bible nous présente que Christ est assis sur un trône, pas tout seul. Il y a un autre avec lui, un deuxième. Et entre les deux se fait un dessein de paix, mes amis. J'aimerais que nous considérions une spécificité de ce trône. Rendons-nous pour cela en Hébreux chapitre 4, verset 16. Où allons-nous? En Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 16. Où il nous est dit, Allons donc avec confiance au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. Le trône de Dieu, mes amis, avant de pouvoir nous présenter devant lui physiquement, dans la gloire, nous devons d'abord nous présenter devant lui dans la grâce. Et par la grâce, tâcher d'accéder à ce trône. Parce que c'est de ce trône qu'émane la grâce. Cette grâce émane, comme nous allons le voir, du dessein de paix qu'il y a entre les deux êtres qui sont assis sous le trône. Et cela se vérifie dans les versets que nous allons prendre. Alors, il y a un nuage là qui arrive là, sur nous, et il va tomber une pluie de versets. Il va y avoir une pluie de versets, mes amis. D'accord? Et nous allons faire ça de manière assez rapide parce que le temps nous est compté. Mais j'aimerais quand même prendre le temps de prendre chacun de ces versets pour que cela puisse marquer nos esprits de manière à voir d'où provient la grâce, mes amis. Commençons notre pluie de versets en Romains, chapitre 1, verset 7. Romains, chapitre 1, verset 7. Et si vous ne pouvez pas suivre avec moi la cadence avec laquelle nous allons lire ces versets, je vous invite simplement à noter les versets et à tête reposée, à les examiner pour vous. Mais pour le fait de l'enregistrement, je lirai ces versets. Romains, chapitre 1, verset 7. Romains 1, verset 7. On est prêt pour le marathon? On y va. À tous les bien-aimés de Dieu, appelés et saints qui sont à Rome, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Deuxième texte. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 2 maintenant. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 2. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. On poursuit. Galates 1, verset 3. Galates, chapitre 1, verset 3. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 2. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 2. Philippiens 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Et on continue avec Colossiens, chapitre 1, verset 2. Aux frères en Christ, les saints et les fidèles à Colosse, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1. Paul et Sylvain et Timothée et l'Église des Thessaloniciens en Dieu le Père et en notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Poursuivons maintenant avec 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 2. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et considérons à présent ce qu'il déclara à Timothée par rapport à la grâce et à la paix. 1 Timothée 1, verset 2. À Timothée, mon vrai fils en la foi, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Et lors de sa deuxième épître, cela n'a toujours pas changé. 2 Timothée 1, verset 2. Grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Et Philémon a eu droit aussi à la même chose. Philémon, l'unique chapitre de Philémon, verset 3. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre, maintenant. 2 Pierre 1, verset 2. Qui est le verset que nous plaçons en introduction de nos newsletters. 2 Pierre, chapitre 1, verset 2. La grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons conclure ce marathon, nous allons conclure cette averse de versets avec 2 Jean, verset 3. 2 Jean, verset 3. La grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Mes amis, la Bible est claire. Tout comme Jésus-Christ nous le révèle en fait. Tout comme Jésus-Christ nous le montre dans le livre où il se révèle, l'Apocalypse. La Bible est claire. Il n'y a que deux êtres. Et pour être plus précis, ce ne sont que les deux êtres qui sont assis sur le trône. Dieu le Père et Jésus-Christ son Fils. Ce ne sont que de ces deux êtres-là qu'émanent la grâce et la paix. Mais alors, diront certains, pourquoi en Apocalypse, chapitre 1, verset 4, il est dit, Jean aux sept esprits qui sont en Asie, la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui sera, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Pourquoi? Là, on a un verset qui ne concorde pas en apparence avec tous les versets du nuage qui est passé sur nous tout à l'heure. Pourquoi? Pourquoi cela ne concorde pas? Pourquoi? En apparence, cela semble ne pas concorder. La première chose qu'il nous faut noter, ou tout du moins le premier aspect, est que comme on l'a vu au tout début de cette présentation, eh bien, les sept esprits sont pleinement dans l'agneau. Donc, il ne s'agit pas d'un être séparé. Non. Le deuxième aspect, c'est que ici, en fait, on nous présente le canal par lequel la grâce et la paix nous sont apportées. La source émane du trône, de ceux qui sont assis sous le trône, ce sont eux qui en sont la source. Mais le canal, mes amis, le canal, c'est l'esprit. Et de manière à faire une analogie, j'aimerais vous présenter la chose suivante. Car il s'agit de la même chose, en fait, ce que nous allons voir. Par rapport à la communion, par exemple. Rendons-nous en 2 Corinthiens, chapitre 13. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, je crois. Verset 13, oui, c'est cela, dans la version Osterwald. 2 Corinthiens 13, verset 13. Et remarquons ce qu'il est dit ici. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Ici, le terme qui est traduit par communication vient du grec koinonia. OK? Et ce même terme, koinonia, se retrouve en 1 Jean. Où allons-nous? 1 Jean. Et chapitre 1, verset 3. 1 Jean, chapitre 1, verset 3, où il est dit « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous ayez communion, koinonia, avec nous. Or, notre communion, koinonia, est avec le Père et avec Jésus-Christ, son Fils. » Donc ici, on voit que la communion des chrétiens, elle est avec le Père et le Fils qui sont assis sous le trône. Mais par quel est le moyen, par quel canal sommes-nous en communion? Par l'Esprit, mes amis. Et il en est exactement de même pour la paix et la grâce. Elle émane de Dieu et de son Fils qui sont assis sous le trône. Mais elle nous est communiquée, véhiculée par le moyen, par le canal qu'est le Saint-Esprit, qu'est l'Esprit de Dieu, lequel est pleinement en Jésus. Lorsque vous êtes en communication avec quelqu'un au téléphone, vous parlez bien à cette personne, vous ne parlez pas au téléphone. Ce n'est pas le téléphone avec qui vous faites la conversation, mes amis. Le téléphone, la technologie que vous utilisez pour parler, eh bien, cela est juste le canal. OK? Cela est clair, non? Alors pourquoi cela ne l'est-il pas tout autant lorsqu'on parle du Saint-Esprit? Pourquoi les gens, par rapport au Saint-Esprit, ils disent, ils pensent, ils arrivent à penser que, eh bien, on peut lui parler. On est en communion avec lui. Mes amis, nous devons faire attention. La Bible a un enseignement très clair. Et nous ne devons pas corrompre cet enseignement. Car si nous le corrompons, et si nous modifions, eh bien, la consistance, si nous avons une vision altérée des êtres avec qui nous sommes en communion, des êtres de qui émane la paix et la grâce, alors, mes amis, je peux vous dire que ce que nous allons expérimenter sera une chose terrible. Et la raison pour laquelle je vous dis cela, eh bien, c'est en vertu de ce que nous lisons, ou tout du moins en vertu. C'est en raison, c'est à cause de ce que nous lisons en Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 14. Je vous invite, s'il vous plaît, à vous rendre avec moi. Alors que nous touchons à la conclusion de cette présentation, à vous rendre avec moi en Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 14. Nous allons entamer la conclusion de cette présentation. Tout doucement, nous allons entamer la conclusion de cette présentation. Et nous allons faire une escale et considérer pourquoi il nous est important de bien comprendre tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Ésaïe 14, versets 12 à 14. Où il est dit « Comment es-tu tombé du ciel ?» Astre brillant, c'est-à-dire Lucifer, fils de l'aurore, Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'Assemblée aux régions lointaines de l'Achillon. Je monterai sous les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mes amis, notez que ces versets nous parlent des raisons qui ont amorcé la chute de Lucifer, l'ange de lumière, celui qui aujourd'hui est l'adversaire, Satan. Et remarquez que cet ange, il avait un problème avec le trône de Dieu. Remarquez qu'il voulait placer, nous dit le texte au verset 13, il voulait élever son trône par-dessus les étoiles de Dieu. On sait que les étoiles, ce sont les anges, mes amis. D'accord? Mais il voulait être vraiment bien au-dessus d'eux, en fait. Et il voulait siéger sur la montagne de l'Assemblée, aux régions lointaines de l'Achillon. Si vous avez des Louis II ou d'autres versions, Achillon, en fait, c'est quoi? Cela représente le nord, le septentrion. Et mes amis, rappelez-vous de ce que nous avons vu au tout début de cette étude. Nous avons vu que dans le sanctuaire terrestre, dans le type, le trône de Dieu, la table des points de proposition, se trouve de quel côté? Du côté du nord, mes amis. Du côté du nord. Donc, l'endroit où Satan voulait monter, c'était sous le trône de Dieu, en fait. Il voulait faire du trône de Dieu son trône. Mais le texte ne s'arrête pas là, car le texte va nous préciser exactement ce que il voulait faire. Remarquez le verset 14. « Je monterai sous les hauteurs des nues et je serai semblable au Très-Haut. » De manière à bien comprendre l'enjeu, il nous faut saisir ce que signifie être semblable au Très-Haut. Je vous invite à vous rendre avec moi rapidement et gardez un post-it ou un doigt en Ésaïe 14 et rendons-nous rapidement, comme on dit en langage familier, en coup de vent, rendons-nous rapidement en Daniel, ok? Daniel, chapitre 12, verset 1. Juste pour ceux qui ne connaissent pas ce verset, Daniel 12, verset 1, où il est dit « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef. » Ici, on nous parle de Christ qui se lève du trône sous lequel il est assis dans le lieu très saint du sanctuaire céleste lors de la fin du temps de probation. Et ici, Christ est appelé Michaël. Et Michaël, mes amis, en hébreu, signifie celui qui est semblable à Dieu. Est-ce que vous avez compris ce que cela signifie? Cela signifie que Jésus-Christ peut, ou devrais-je dire ainsi, cela signifie que Jésus-Christ a pu, peut et pourra toujours s'asseoir sous le trône de Dieu parce qu'il est semblable à Dieu. Rappelez-vous ce qu'on a vu en Hébreux 1, 8 et 9. Ô Dieu, ton Dieu, il a le droit de s'y asseoir. Mais spécifiquement, il est Dieu parce qu'il est semblable à Dieu. Et Et on peut renverser le raisonnement. C'est parce qu'il est semblable à Dieu qu'il est Dieu. D'accord? Mais ici, on voit que Satan voulait être semblable à Dieu. Autrement dit, en fait, Lucifer voulait monter sur le trône pour être comme Christ, en fait. Pour être comme Dieu, comme Christ. Il voulait faire une troisième image. Il voulait être la deuxième image, en fait. Puisque Christ est l'image de Dieu. Mais lui, il voulait être la troisième image. Et donc, il voulait monter sur le trône. Et être cette deuxième image. Et d'une manière spécifique, on peut aussi dire qu'il voulait prendre la place de Christ. Et oui. Parce que, étant donné que Christ est le seul voulant monter sur le trône et être semblable à Dieu, revient en fait à détrôner Christ. Et mes amis, voilà l'origine de la doctrine de la Trinité. Cela a pour origine la rébellion de Lucifer. Car depuis, bien avant la création du monde, eh bien, la position qu'il convoitait d'occuper sous le trône de Dieu, eh bien, voilà la convoitise, mes amis. Cette convoitise-là qui a amorcé sa chute. Et depuis ce moment-là, mes amis, Lucifer a eu à l'esprit de mettre un troisième sous le trône de la divinité. Je vous pose la question suivante. Satan a-t-il réussi à monter sous le ciel? Je reprends. Ça n'a pas de sens ce que j'ai dit. Satan a-t-il réussi à monter sous le trône lorsqu'il était dans le ciel? Non. Non. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à être le troisième dans le ciel. Il n'a pas réussi à se faire adorer, à être le troisième, à être adoré dans le ciel par les anges ainsi que les habitants des autres mondes que Dieu avait créés avant la terre. Il n'a pas réussi dans le ciel. Je vous invite à vous rendre avec moi maintenant en Apocalypse 2, verset 13, pour voir ce que Satan est bien arrivé sur terre, ce qu'il a tâché de faire. Apocalypse 2, verset 13. Apocalypse, chapitre 2, verset 13. Où nous lisons, « Je connais tes œuvres et le lieu que tu habites où Satan a son trône. » Mes amis, lorsque vous étudiez les sept églises de l'Apocalypse, vous arrivez à la connaissance que l'Église de Dieu représentée sous la période de l'Église de Pergame, en fait, parce qu'il n'y a qu'une Église, Dieu n'a qu'une seule Église qui traverse le temps. Et les sept églises dont il nous est parlé dans l'Apocalypse, sont sept périodes de l'histoire de l'Église. Et nous voyons que c'est cette section de l'Église de Pergame, en fait. Eh bien, cela va se passer au moment où la papauté était en préparation. Et le trône dont il nous est parlé là, eh bien, cela a une référence directe avec ce système. Et remarquez l'amplification qu'apporte le fait de comparer Apocalypse 2:13 avec 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4. Rendons-nous en 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4. OK. 2 Thessaloniciens 2, 3 et 4. Et remarquez la chose suivante. Lorsque le système sera en place, remarquez ce qui sera fait. L'apôtre Paul prophétise cela. Et il dit, 3 et 4 de 2 Thessaloniciens 2, que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte, ou l'apostasie, si vous préférez, soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire et celui qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Mes amis, la papauté, comme le dit la messagère du Seigneur, et cette phrase va peut-être choquer certains. Mais mes amis, nous ne pouvons pas retenir la vérité captive, car il n'y a que la vérité qui sanctifie. L'erreur ne nous sanctifiera pas. Et nous devons appeler le péché par son nom, mes amis. La papauté est, comme dit l'esprit de prophétie, le chef-d'œuvre de Satan, mes amis. La papauté est le chef-d'œuvre de Satan. Et il est intéressant de voir que cette puissance, ce pouvoir orgueilleux, ce pouvoir politico-religieux orgueilleux, plus qu'imbu de lui-même, outil, instrument direct de l'ange déchu, de l'adversaire de Satan, eh bien, c'est par ce système-là que Lucifer a mis en place une conception qui le glorifie, une conception de la divinité qui le glorifie. La Trinité. Mes amis, avec cette conception-là, ce que Satan n'a pas réussi à faire au ciel, il le fait sur terre. Il n'a pas réussi à monter sur le trône. Mais avec la Trinité, eh bien, il réussit à faire croire à tous ceux qui acceptent cet enseignement que oui, il est sous le trône. Et lorsque les gens adorent le Saint-Esprit, qui pour eux est un troisième personne séparé du Père et du Fils, un troisième être, mes amis, ces personnes-là sont directement en adoration avec Satan. Nous devons faire en sorte de ne pas tomber dans ce piège. Nous ne devons pas nous laisser piéger, mes amis. Et pour ceux qui ont été piégés, il faut savoir que la victoire est possible. Nous pouvons triompher de cela, mes amis. J'aimerais que nous prenions le dernier texte, le dernier verset de cette présentation. Pour conclure, Apocalypse 14, versets 1 à 5. Où allons-nous? En Apocalypse 14, versets 1 à 5. Apocalypse 14, versets 1 à 5. Et là, il est dit, « Je regardais ensuite, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui, 144 000 personnes qui avaient le nom de son père écrit sur leur front. » Et j'entendis une voix du ciel, comme la voix des grosses eaux, et la voix d'un grand tonnerre. Et j'entendis une voix de joueurs de harpe qui touchaient de leur harpe. Et Il chantait comme un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre animaux et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. La Bible nous présente les 144 000 comme étant sans tache devant le trône de Dieu, mes amis. L'Église, du reste, doit être sans tache devant le trône de Dieu. Et pensez-vous que cela sera sans peine? Pensez-vous que cela ne nous coûtera rien pour arriver à être sans tache devant le trône de Dieu? Non, cela ne sera pas sans peine, mes amis. Alors, si cela ne sera pas chose facile devant le trône de Dieu, si cela ne sera pas chose facile en adorant, en nous prosternant devant le trône de la grâce, devant le trône de Dieu, où est assis le Père et le Fils, pensez-vous que cela sera possible devant le trône de la Trinité que Satan a dressé dans les églises qui se disent être chrétiennes? Non, mes amis, non. Les 54 000 auront des luttes à traverser, mes amis, pour arriver à une perfection de caractère. Et cela nous amène à la conclusion suivante, mes amis. C'est que parmi les 144 000, il n'y aura pas un seul trinitaire. Il y a beaucoup de caractéristiques que les 144 000 n'auront pas. Il y a beaucoup de caractéristiques qu'ils n'auront pas, oui, tout à fait. Ils ne seront pas des menteurs, des voleurs, des tueurs. Bref, ils respecteront les commandements de Dieu parce qu'ils auront gardé la foi de Jésus, oui. Mais mes amis, les 144 000 seront devant le trône de Dieu. Et ils ne se seront pas souillés avec les femmes, à commencer par l'Église de Rome. Alors je le redis, et cela va choquer plusieurs personnes, mais mes amis, soyons sûrs d'une chose, c'est que si nous voulons faire partie des 144 000, la dernière chose qu'il nous faut faire, c'est persévérer dans l'adoration trinitaire. Je ne dis pas que parmi les sauvés, il n'y aura que des non-trinitaires. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Okay? Par contre, ce que j'ai dit, et la Bible me donne toute l'autorité pour le dire, avec tout ce que nous avons vu jusqu'ici, parmi les 144 000, des gens qui vont traverser une période de trouble et qui vont devoir se tenir sans intercesseur, sans médiateur, mes amis, et qui auront dû remporter la victoire sur la bête et sur son image. La bête, on l'a vu durant l'étude de l'école du sabbat, la papauté. Ils vont triompher de toutes les institutions de la papauté, dont le sabbat qui nous renvoie vers le Créateur. Mes amis, encore une fois, il n'y aura pas un seul trinitaire parmi les 144 000. Devant quel trône nous rendons-nous pour obtenir la paix et la grâce? Devant quel trône nous rendons-nous pour obtenir la victoire sur le péché? Mes amis, Dieu soit loué. Dieu soit loué, car nous savons à présent qui est assis sur le trône et de qui émane la paix et la grâce dont nous avons besoin, mes amis. Le secours dont nous avons besoin pour remporter la victoire sur le péché. Et Dieu soit loué, de ce qui nous révèle la véritable adoration, de manière à pouvoir, eh bien, remporter la victoire sur le péché. Ma prière pour vous et pour moi est que vous ayez une vie chrétienne victorieuse à travers une véritable connaissance et adoration de Dieu et de son Fils qui sont assis sur le trône. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.